Europe 1, en balade avec Jean-Jacques Haneau. Frédéric Taddy.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec un célèbre cinéaste que nous partons en balade aujourd'hui, Jean-Jacques Haneau, le réalisateur de Coup de tête, de La guerre du feu, du Nom de la rose, de L'ours, de L'amant ou de Stalingrad. Il a raconté tout cela dans son autobiographie, Une vie pour le cinéma, paru chez Grasset. Aujourd'hui, Jean-Jacques Haneau nous a donné rendez-vous au musée des Arts Forains. Il va nous emmener dans les réserves de la Cinémathèque française, en bateau, bus et à la Sainte-Chapelle.
Europe 1, 11h30, en balade avec Jean-Jacques Haneau. Frédéric Taddeï.
Et alors ce blason-là
Et voici Jean-Jacques Haneau qui est déjà en grande conversation avec le fondateur du musée des Arts Forains.
Moi, la dernière fois où je suis venu dans ce lieu, c'était pour tourner un film publicitaire pour un distributeur de vin extrêmement célèbre, qui, dont le nom de famille est un prénom.
Oui, il faut dire qu'on est ici dans le musée des Arts Forains, avenue des Terroirs de France, sur l'emplacement des anciens entrepôts de Bercy. On est dans les entrepôts, là, hein, là où on stockait autrefois le vin qui était destiné à étancher la soif des Parisiens. Vous êtes avec Jean-Paul Favan, qui est le fondateur de ce musée privé, uniquement sur réservation. Pourquoi est-ce qu'il faut réserver pour venir ici?
Alors, il faut réserver parce qu'on s'intègre à un groupe, mais ensuite, quand on visite, on fait du manège, on va toucher les choses et il faut quand même quelqu'un pour accompagner et mettre en route les objets.
D'accord, là c'est vous pour Jean-Jacques Haneau, c'est
absolument
vous qui vous en chargez. Vous aimez les Arts Forains, Jean-Jacques Haneau?
Oui, parce que c'est très nostalgique. Et puis en plus ça, c'est l'art, un art du spectacle avant le cinéma, qui a précédé le cinéma.
Longtemps, le cinéma était un art forain, d'ailleurs.
Mais bien entendu, les 10 premières années du cinéma étaient faites dans les fêtes foraines, dans des tentes. Les cinéastes rivalisaient avec les femmes à barbe.
D'ailleurs, personne n'imaginait qu'un jour, on s'assiérait pendant une heure et demie ou deux heures dans une salle noire pour regarder un film. Ça paraissait aberrant.
Oui, c'était des bobines d'une minute ou deux minutes. C'était des scénettes. Alors on rentrait dans la baraque, on ressortait, on allait voir autre chose. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En plus de ça, j'entendais en entrant de l'orgue limonaire. Vous savez, c'est formidable. C'est musique automatique, c'est comme les pianos mécaniques. Tout ça m'a enchanté. Alors quand j'étais tout bambin, j'allais avec mon vénérable grand-père à la fête, à la foire du trône. Et effectivement, moi, j'ai vu tous ces des manèges qui dataient du XVIIIe siècle.
Vous en avez aussi le ancien ici?
Oui, bien sûr.
On va les voir, on pourra les toucher.
Oui, il y a un manège de vélo qui est de 1897.
Ah
oui. Mais vous savez, très ancien, c'est 1860 maximum.
Ben allons-y.
Pour des manèges.
Alors on passe par où?
Par là.
Par ici.
Ah, magnifique.
Ici, un premier manège.
Alors, j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, d'être monté sur un manège similaire, peut-être celui-là, justement à la foire du trône. Ça ravive des
souvenirs.
Possible
ou pas?
C'est une Madeleine de Proust, c'est intéressant. D'ailleurs, à une époque, j'avais mis les manèges un petit peu plus haut que normal, pour faire en sorte que les gens se sentent plus petits par rapport au manège et se retrouvent dans leur état d'enfance.
Ah, c'était pas une mauvaise idée, oui.
Et il est animé par quoi? Par un moteur électrique?
Moteur électrique, oui, oui. Ce manège, en fait, est une recomposition que j'ai dû faire. Celui-ci, je l'ai fait à partir de gondoles provenant de manèges. Alors ça, c'était très intéressant parce que les forains ont copié les gondoles des doges pour les mettre sur les manèges. C'est pour ça qu'on parle de gondoles.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui,
et donc, j'ai réintégré des gondoles, j'ai réintégré des sujets qui correspondent, effectivement, qui lui donnent presque une idée un peu plus 18e ou même peut-être un peu avant.
Et est-ce que vous l'accompagnez d'une musique de mandoline?
Alors,
c'est très vénitien.
Je l'accompagne surtout d'une musique de boîte à musique.
Ah, j'adore, moi, les boîtes à musique. J'en ai quelques-unes chez
Écoutez,
moi.
Écoutez, asseyez-vous.
J'en avais une très, très belle sur 7 ans au Tibet que j'avais fait construire.
Une Alors, boîte à musique.
Une boîte à musique, oui, oui.
Pour c'est vous très, distraire très ou pour vous...
Non, c'était dans le film. Dans le film, c'était le cadeau de Henry Scharrer au jeune Dalai Lama.
Henry Scharrer qui était interprété par Brad Pitt.
Absolument.
Ah. Et voilà, on commence à tourner avec Jean-Jacques Haneau dans une gondole. Vous retrouvez votre enfance
Oui, absolument, parce que j'ai l'impression d'avoir, de m'être déjà assis dans ces gondoles à la Foire du Trône.
Alors, cela dit, quand j'ai lu votre autobiographie, je me suis aperçu que vous étiez assez précoce. Vous racontez une histoire d'amour que vous avez eue à 12 ans avec votre prof de français qui en avait 28.
Oui, mais j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de cette jolie femme qui m'a appris le latin, le grec et bien d'autres choses encore.
Oui, vous dites que votre vie aurait été différente si vous ne l'aviez pas rencontrée. Ça s'est mal terminé, cela dit, il y a eu un petit scandale.
Non, ça s'est mal terminé plutôt pour elle, parce que moi, je n'ai pas été inquiété. J'étais un tout petit enfant, j'avais 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus. J'étais en classe de 5e, mais on a connu une histoire d'amour, oui. Ouais.
Mais ils l'ont déplacé avec interdiction de vous revoir et de vous écrire quand même.
Ah oui, bien sûr, oui. Elle a été, révoquée de l'université.
Ah oui, carrément.
Oui, oui.
Ah, ouais, ouais. Mais, aujourd'hui, vous imaginez le scandale que ce serait encore pire.
Probablement, oui. Ouais. Mais c'était une femme formidable, elle était agrégée de grec et de philosophie. Grande spécialiste de l'antiquité gréco-romaine. Alors moi, ça m'a fait rêver.
Vous avez fait des études de grec, d'ailleurs, pour lui rendre hommage.
J'ai fait du grec pendant 8 ans, oui, jusqu'à la Sorbonne. Et je continue à lire des textes en grec. Bon, j'ai besoin d'un dictionnaire maintenant. Mais autrefois, j'étais très fort en grec, oui. C'est une ouverture magnifique. Le grec est une langue exceptionnelle parce que c'est un Lego. Le grec. Alors, quand on connaît les éléments, c'est extrêmement amusant parce qu'on peut faire des néologismes à l'infini.
Oui, enfin, il vaut mieux être tombé amoureux de sa prof au départ pour en avoir une vraie passion.
Oui, elle m'a fait aimer la culture, j'ai envie de dire la culture physique aussi, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, on est bien dans les musiques mécaniques que j'adore, oui. Dont je vous parlais tout à l'heure.
On continue notre promenade dans le musée des Arts Forains avec Jean-Jacques Canot et Jean-Paul Favant. À tout de suite.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Jacques Hano sur Europe 1.
C'est dans un musée insolite du 12e arrondissement, rempli d'objets en tout genre, qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Jean-Jacques Hano pour la suite de leur balade parisienne.
Nous sommes en balade avec Jean-Jacques Hano au musée des Arts Forains. Un musée qui présente des manèges, des attractions, des boutiques foraines, des décors. Il y a même une ancienne salle de bal itinérante. Nous sommes avec Jean-Paul Favant, le fondateur. Woody Allen, je crois, a tourné ici, hein, une scène de Midnight à Paris.
Oui, absolument.
Là, ce sont des machines autour de nous, des machines merveilleuses.
C'est en fait un orgue, mais par projection vidéo, je le transforme en palais, puisque c'est un orgue qui est fait avec des colonnes, avec des éléments qui pourraient correspondre à un palais. Tout à l'heure, ça pourrait être une bobine de cinéma, parce que ces mêmes colonnes vont se transformer en éléments avec une image de Muybridge au milieu.
On aperçoit un orgue magnifique, mais un orgue de fête foraine, hein, rien à voir avec les orgues des cathédrales.
Orgue de bal.
Il était à carte perforée, celui-là comme...
Oui, bien sûr. Tous étaient à carte perforée. Mais vous savez, ce qui est intéressant... Enfin, tous. Non, à l'origine, ils étaient à rouleau, mais à partir ce que l'on a aujourd'hui, c'est surtout les cartes perforées, parce qu'on n'entendait qu'un refrain avec une carte perforée, un rouleau.
Oui, bien sûr. Et il y a combien de touches ?
Celui-ci
combien
est
de trous dans la carte ?
Non, celui-ci est un 60 touches. Ah, oui.
On voit bien votre souci de l'exactitude.
Hein. Non, mais il y a un accompagnement, forcément. Donc, il y a combien de sons différents ? Vous avez quoi comme
on pourrait dire instrument. On pourrait dire différemment aussi. Combien est-il de musiciens là ?
Il y en a 60, enfermés dans l'ordre.
Il y en a 60 et qui utilisent effectivement en variété 8 instruments différents. Là, on est entouré par des personnages du musée Grévin. Gounod, Massenet, Saint-Saëns, Debussy, Réjeanne, la belle Otero.
Ils avaient été exposés autrefois et vous avez récupéré
ces personnages ? Ils proviennent, oui, du musée Grévin.
Oui. Moi, j'ai été amené à demander aux sculpteurs qui travaillent pour le musée Grévin de travailler pour un film publicitaire que j'ai fait récemment avec Charlize Theron pour une marque de parfum. Le nom commence par D. Où j'ai été amené à faire revivre des stars du passé. Et pour modéliser les visages... J'ai fait appel à ces spécialistes parce que finalement les programmateurs informatiques ne connaissaient pas les secrets de la dissymétrie des visages, les secrets de la réflexion de la peau. sur les différents endroits de ce visage. Et c'était assez fascinant de découvrir la spécificité que c'est de la sculpture, mais extrêmement réaliste.
Vous savez quel est le premier acteur qui s'est fait modéliser le visage en prévoyant justement qu'après sa mort, on puisse l'utiliser? C'est Marlon Brando. Malheureusement, on ne sait pas où ça a été rangé. Mais c'est le premier.
C'est pas cette anecdote.
Il avait qu'une idée, c'est de pouvoir être payé encore pour jouer alors qu'il serait mort.
Mais maintenant, avec le procédé qu'on a mis au point, car c'est une société française qui a abouti le travail et qui a déposé, je crois, des brevets, on est en mesure aujourd'hui de faire jouer n'importe quel acteur du passé dans n'importe quelle situation.
Alors là, on rentre dans la figuration d'un carrousel salon. Vous allez passer sous des rideaux de théâtre, vous entrez sur scène et vous allez être acteur.
Très bien.
Voilà qui manquait au curriculum vitae de Jean-Jacques Hano.
J'ai toujours refusé d'être acteur.
Ici, vous avez des chevaux de carrousel salon, donc encore une fois, la dimension de ces manèges fantastiques qui faisaient 38 mètres de façade, 15 mètres de haut, avec à l'intérieur, c'était couvert, il y avait le bal, le bar, l'orgue. Et bien sûr, un très grand manège.
Et alors à gauche, vous voyez, il y a la course des garçons de café. C'est une course qui existait réellement à Paris,
oui, bien sûr.
Qui n'existe plus, mais c'est encore récemment.
Il n'y a pas très longtemps, oui.
Ouais, je crois. Peut-être qu'elle existe encore.
Mais j'ai fait d'ailleurs une pub.
Encore
de ça, oui, pour une boisson à l'orange qu'il fallait secouer.
Il y a beaucoup d'enfants qui viennent visiter ce musée.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne veux pas vexer les enfants, mais
quand
on regarde ne serait-ce que Disney, il y a peut-être deux parents pour un enfant et demi. Au 19e siècle, il n'y avait pas de manège pour enfants. Ils ont vraiment existé après 1920.
D'accord.
Bon.
Donc c'était vraiment les adultes qui venaient.
C'était pour les adultes. Ah. Et puis la fête foraine, ce n'était pas que les manèges.
Ce qui était amusant, c'est qu'il y avait de tout côte à côte. En tout cas, c'est mon souvenir. Il y avait évidemment le marchand de barbe à papa, mais juste à côté, moi, je me souviens d'avoir vu les sœurs siamoises, l'homme le plus grand du monde, avec le lilliputien le plus petit.
Je croyais que ça avait disparu. Vous parlez de la Première Guerre mondiale. Vous êtes né en 43, donc vous n'avez pas...
Oui, mais moi, je vous parle des années 50.
Ouais, moi, je pensais que c'était bien plus ancien.
Non, pas du tout. J'ai vu absolument tout ça.
Il y avait encore les bonimenteurs.
Absolument, à l'entrée, on nous annonçait quelque chose d'absolument extraordinaire. De temps en temps, évidemment, la femme à barbe, c'était tout à fait un mec, ou c'était une barbe mal posée. Mais il y avait des personnages très surprenants. Il y avait, au sens étymologique, des choses que l'on montre, donc des monstres. Moi, j'ai vu des êtres dans des petits paniers qui mesuraient 50 cm et qui parlaient très bien, qui étaient déjà des adultes. Donc, si vous voulez, ça, c'était toléré, non seulement toléré, mais moi, je me souviens, mon instituteur nous recommandait de voir la diversité de la vie en allant. Et il n'y avait pas de mépris par rapport à ces personnages.
Merci, Jean-Paul Favan, de nous avoir accueillis pour cette visite privée, puisque je le rappelle, le musée des arts forains, il faut réserver et ce sont des visites privées. On va continuer notre balade avec Jean-Jacques Hano.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Jacques Hano sur Europe 1.
Frédéric Taddeï est en balade jusqu'à 12h30 avec Jean-Jacques Hano. Et alors, en tant que réalisateur, producteur et scénariste, il nous emmène tout naturellement dans l'antre de la préservation du patrimoine cinématographique.
Nous voilà avec Jean-Jacques Hano en direction de la Cinémathèque française, qui est à deux pas... des anciens entrepôts de Bercy. Elle se trouve dans la rue de Bercy. Jean-Jacques Hano, je disais que vous êtes l'un des rares cinéastes français de votre génération à avoir voulu que ces films soient vus dans le monde entier. Mais vous avez été aussi l'un des premiers à vous battre pour avoir des budgets importants, comparables à ceux des Américains. C'est ce qui vous a obligé, on le disait, à les séduire au-delà des frontières, et bien entendu. C'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas toujours été très aimé, ni par la critique, ni par une partie du milieu du cinéma, qui vous reprochait vos gros budgets et vos gros succès.
Oui, il y avait cette logique qui était qu'avec le prix d'un de mes films, on pourrait faire 10 films français. Ça n'avait rien à voir parce que je n'ai pas pris de l'argent d'État. J'ai même refusé des avances qu'on me proposait en France parce que j'ai toujours estimé que mes films devaient être financés par ceux qui les voyaient et ceux qui anticipaient que des gens allaient venir, c'est-à-dire les distributeurs internationaux.
Mais vous auriez pu, effectivement, comme la plupart des cinéastes, vous contenter de budgets moindres et faire des films typiquement français qu'on amortit bon an mal an en les prévendant à la télévision, en se faisant financer par les régions. Vous, vous avez choisi le plus compliqué, d'autant plus compliqué d'aller vous faire produire ailleurs par des vrais producteurs de cinéma, que la plupart du temps, vos films, sur le papier en tout cas, paraissaient invendables. L'histoire d'un ours
oui, dans la forêt, oui, bah, d'ailleurs,
l'histoire d'homme préhistorique qui parle pas un langage incompréhensible.
Quand on me demandait, quand les gens lisaient le scénario, ils me disaient, c'est très bien le scénario, est-ce qu'on peut avoir les sous-titres? Alors je disais non, parce qu'il n'y aura pas de sous-titres dans le film. Alors comment on va comprendre? Alors j'expliquais que le cinéma était né muet et que les gens comprenaient tout à fait l'histoire sans avoir besoin des cartons intercalés. Et que quand j'ai essayé de trouver de l'argent pour l'ours, tout le monde me disait, ah oui, qui joue l'ours? Alors je disais, un ours, mais qui y aura dans sa peau? Quel acteur?
Mais même quand vous avez des stars, ils n'en veulent pas Sean Connery. On se dit, bon, ben, avec Sean Connery, c'est gagné, le nom de la rose. Pas du tout, il était dans le creux de la vague, personne n'en voulait.
Voilà, et puis c'était James Bond, on ne voyait pas comment il pouvait interpréter le rôle d'un moine du XIVe siècle.
Donc, ou Patrick Devers dans Coup de tête, personne n'en veut non plus, parce qu'à l'époque, il était héroïnomane.
Oui, et puis il n'est donc pas assurable. Il a eu le courage et la volonté d'arrêter, il l'a fait véritablement pendant toute la préparation du film et tout le tournage.
C'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, dans vos mémoires, c'est de se rendre compte à quel point trouver de l'argent, quand on fait du cinéma, mais quand on fait du cinéma à ce niveau-là, évidemment, c'est une aventure pleine de péripéties. Vous racontez, pour le nom de la rose, votre producteur allemand vend son immeuble, vend sa société, il ne vous le dit pas. C'est un vrai producteur, il joue sa chemise.
Oui, alors qu'en France, effectivement, personne n'a voulu me produire parce qu'on pensait que c'est trop risqué et que personne allait vouloir voir un film, une histoire policière dans un monastère au XIVe siècle.
Il faut dire qu'il y a peu de producteurs en France qui se ruinent. Hein. En général, on ne se ruine pas.
Ne croyez pas ça. Je crois que oui. Vous savez, il faut se souvenir que seulement un film sur dix
est rentable. C'est bien la preuve que les producteurs ne se ruinent pas.
Oui, alors, on peut vivre comme ça. En fait, c'est le contribuable qui paye.
Non, sur les chaînes de télé, en réalité.
Oui, mais si c'est les chaînes d'État, c'est quand même le spectateur contribuable. Donc ça dépend sur quelle chaîne, effectivement. Si ce sont des chaînes privées, ce sont les annonceurs, en vérité, qui payent.
Alors le problème, vous, c'est que vous avez fait beaucoup de très gros succès, mais quand vous avez pris des gamelles, c'était des vraies gamelles.
Bah, elles sont à l'échelle, oui.
Voilà, c'est ça.
Mais vous savez, j'ai jamais menti, j'ai toujours dit, attention, ce sont des projets risqués. Mon opinion, c'est que le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. C'est-à-dire qu'en ne prenant pas de risques, vous allez faire forcément un film ordinaire, déjà vu, qui peut être très bien, mais si on veut faire avancer la création, j'ai envie de dire, il faut prendre le risque de l'innovation, quitte à se planter.
Vous avez fait Sa Majesté Mineure avec José Garcia et Vincent Cassel, film qui se passait au néolithique, où l'homme est encore plus proche des animaux et des dieux que des autres hommes, un projet très risqué. Mais là, c'est pareil. Là, ça sort quasiment qu'en France. Ça doit rapporter un million de dollars, alors que ça en avait coûté 26.
Voilà, oui,
je crois que c'est
le
chiffre que vous donnez dans votre livre.
Oui, non, mais c'est une vraie plante. Oui. Mais peu à peu, il y a pas mal de gens qui viennent à moi en me disant « Mais j'ai vu ce film,
c'est finalement pas si mal. Hein »
Mais oui, c'était un peu mon pari d'ailleurs. Ça m'est arrivé, vous savez, sur Coup de tête, qui est un film qui n'avait pas eu de grand succès à la sortie et qui est devenu un film culte et qui n'arrête pas de repasser
à la télé.
Télévision.
Ouais. Et Or Noir, l'Or Noir, je me souviens si c'était là, Or Noir.
Oui.
Or Noir, c'est pareil, ça coûte très cher.
Oui, pour Or Noir, c'est tout à fait différent. Le film est vraiment sorti à la très très mauvaise époque, parce qu'on est sorti quelques mois après les révolutions arabes, et qu'il y avait une saturation sur le monde arabe, et qui nous a été fatale.
Mais comment vous êtes parvenu à vous en relever, Jean-Jacques Hano? Parce que c'est deux gros échecs. Là, c'est des vrais échecs. Ça coûte beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros.
Oui, mais vous savez,
vous arriverez à faire Le Dernier Loup, qui, lui, va être largement bénéficiaire. Ça va rapporter plus de 120 millions de dollars. Mais comment vous êtes arrivé à vous en relever?
Écoutez, je crois que les financiers on fait confiance quand même au... j'ai envie de dire à la force d'inertie, c'est un peu comme un paquebot, si vous voulez, vous ne l'arrêtez pas tout de suite. J'avais fait avant 10 succès, ou 10 grands succès internationaux, et heureusement, on m'a suivi sur mes envies.
Alors, depuis que j'ai lu votre autobiographie, je connais vos goûts musicaux, Jean-Jacques Hano, je m'en doutais un peu, la musique classique, mais aussi les musiques du reste du monde, comme on dit, hein, les musiques japonaises, la musique indienne, dès votre plus jeune âge. Alors bon, moi, je ne connais pas très bien la musique japonaise, donc
on va écouter
The Flower of Carnage, la fleur du carnage, chantée par Meiko Kaji, qui était une actrice et une chanteuse japonaise.
Shindeita asa ni tomurai no yuki ga furu hagure inu no toboe geta no oto kishimu inga na omota mitsumete aruku yami o dakishimeru janome no kasa hitotsu inochi no michi o yuku onna namida wa to ni sutemashi Urimuita kawa ni tozakaru tabi no hi ga ite ta tsuru wa ugokazu naita ame to kaze hieta mizu mo ni hotsure ga mi utsushi namida sae misenai janome no kasa hitotsu urami no michi o yuku onna kokoro wa to ni sutemashi
C'était Meiko Kaji qui chantait La fleur du carnage, rien que pour Jean-Jacques Hano.
C'est entre des costumes et des tas d'objets récupérés sur des tournages de films qu'on rejoint Frédéric Taddeï et Jean-Jacques Hano.
Nous voilà avec Jean-Jacques Hano dans les réserves de la Cinémathèque française. Attention, on n'est pas rue de Bercy, hein, on est toujours dans les entrepôts où sont stockés des milliers de costumes, d'accessoires, d'appareils de cinéma que l'on a commencé à récupérer déjà sous Henri Langlois, hein, le fondateur de la Cinémathèque. Nous sommes avec Laurent Manoni, qui est le directeur scientifique du patrimoine et l'auteur d'une histoire de la Cinémathèque française qui était parue chez Gallimard. C'est vous qui régniez sur cette caverne d'Ali Baba ?
Oui, depuis 1936.
Non, plus récemment.
Oui, enfin, depuis un moment déjà, effectivement. Donc ici, nous avons la chance de conserver une collection historique absolument unique au monde. Plus de 6000 machines de cinéma, parfois très anciennes. Il y en a qui datent du XVIIIe siècle. Et c'est une collection qui a été réunie par Henri Langlois à partir de 1936. Donc. En fait, la collection commence vraiment en 1938, lorsque la veuve d'Henri Langlois donne la caméra la veuve de Georges Méliès, pardon, donne la caméra de Georges Méliès à Henri Langlois. Donc on a cette pièce historique qui est la caméra de Georges Méliès, avec laquelle il a réalisé tous ses films, qui est une pièce vraiment fabuleuse et tout à fait historique.
Pas tous les films.
Les premiers films.
Il a commencé par une machine Edison.
Oui, puisque et ensuite, Lumière ne voulait pas lui vendre une caméra.
C'est ça, exactement.
Oui. Voilà. Et Edison non plus, mais il l'a acheté quand même à travers un Anglais.
Un opticien anglais.
Un opticien anglais
qui lui a servi de
prêtre. Robert William Paul. Ouais.
À l'époque, Georges Méliès, vous savez, c'était le Spielberg de son époque. Hein. Les Américains pirataient les films de Méliès pour les passer dans leur cinéma.
Ils pirataient aussi les films de chez Gaumont, les films de chez Pathé. C'est-à-dire qu'ils pirataient tout ce qu'ils pouvaient.
Généralement, on pirate ce qui marche.
Oui, et puis c'est un peu comme aujourd'hui, il y a des hackers, c'est la même chose, on pirate les films, on
films toute
semi-légalité. Ouais. Et à l'époque, les films n'étaient pas brevetés, et donc les gens soit les refaisaient à leur manière, c'est-à-dire que les films Pathé étaient refaits par Gaumont ou par Eclair, et la même chose aux États-Unis, on se piquait d'un continent à l'autre.
Là, il y a des projecteurs aussi, je vois, énormes. C'est des choses qui n'existent plus maintenant que les films sont
numériques. Ça, c'est une Moviola.
Moviola, projecteur...
Moviola très ancienne, parce que... Les Moviola,
ça c'est sur quoi
un petit appareil de
monter les films.
Oui, avec une loupe, c'est un appareil que je n'aimais pas du tout, moi, parce que ça cassait les films beaucoup. Ça faisait un potin infernal, et il y avait une pédale comme ça pour faire avancer le film. Et je vois de l'autre côté une Mitchell là, et moi j'ai travaillé avec ça. J'ai fait des films de pub. Là,
c'est la caméra un peu qu'on voyait dans le générique du cinéma de minuit.
Bah, c'est la caméra mythique avec les deux oreilles de Mickey au-dessus et un viseur clair. Donc l'opérateur était assis là, comme ça. Et je sais très bien me servir des manivelles qui permettent de faire de panoramiques.
Mais là, on est dans les réserves, donc ça veut dire que le public n'a pas accès à tout.
C'est un lieu secret, effectivement. Mais ici, on a de quoi
pas
faire. Voilà,
oui,
ouais, très bien. Mais on a de quoi faire plusieurs musées du cinéma. C'est ce qu'on rêverait de faire, en fait, à terme, parce que nos collections sont très riches.
Vous aussi, vous êtes collectionneur
Oui, j'ai une collection. J'ai commencé ma collection quand j'étais à l'école Lumière, qui s'appelait l'école de Vaugirard à l'époque.
C'était la grande école du cinéma français.
Fondée par Lumière et Gaumont, je crois, tous les deux. Et j'ai commencé à acheter des toutes petites choses. Et puis, peu à peu, à chaque anniversaire, ma maman m'offrait ces caméras qui ne valaient pas grand-chose à l'époque et qui maintenant ont pris beaucoup de valeur. J'ai ces deux modèles-là.
Alors vous avez beaucoup de costumes aussi ici.
Alors c'est dans un autre entrepôt, effectivement, il y a une collection d'environ 3000 costumes avec des pièces aussi très anciennes. On a par exemple la robe, une des robes portées dans Autant n'importe le vent, vous voyez, des pièces vraiment de prestige. Et on continue à enrichir cette collection avec des choses très récentes.
Il y a 17 000 costumes de Stalingrad de Jean-Jacques Hano.
Hélas, non.
Il y en avait 17 000, hein, vous dites 17 000 costumes.
Oui, malheureusement, oui. Bah, j'avais des journées de figuration à 1500, 2000 personnes.
Ça, en plus, dans une vie reconstituée en studio et sur un fleuve, la Volga, qui en fait était un lac.
Voilà, donc oui, qui était un lac pour la bonne raison que je ne pouvais pas faire exploser des mines sous-marines dans un endroit où on risquait d'avoir un plaisancier qui se soit fourvoyé ou avoir des poissons qui n'aimaient pas beaucoup les mines. Donc non, on a tourné dans un endroit où l'eau était tellement polluée qu'il y avait zéro vie aquatique.
Zéro risque. Donc.
Et zéro risque qu'il y ait un plaisancier. Le problème, c'est qu'il a fallu que je transporte les bateaux par route. On avait même imaginé transporter par zeppelin, parce que ceux qui étaient très très gros,
le cinéma de Jean-Jacques Hano, c'est quand même quelque chose.
En deux ou en trois, et on a ressoudé les tronçons sur ce lac.
Ah, c'est quand même incroyable. Et les moon boots de Sean Connery sur le tournage de
Ça, c'est sa propriété personnelle.
Parce qu'il raconte que, comme il avait très très froid, il mettait des moon boots, il a fallu rallonger sa robe de bure, sa robe de moine.
Oui, j'avais passé un deal avec lui, je comprenais très bien qu'il est froid. On tournait à Rome, l'une des rares années où il y a eu 30 cm de neige à Rome. Le jour où le tournage était prévu pour avoir une scène de neige, or j'avais épuisé mon budget de neige. Eh ben, Dieu nous a envoyé...
un froid glacial.
Voilà, un froid glacial et des chutes de neige. Sauf que effectivement, Sean Connery se pelait de froid, vu que j'avais décidé que tous les décors allaient tourner sans chauffage, parce que je voulais que les moines ressemblent à ceux de l'époque, c'est-à-dire que ils étaient protégés par d'épais vêtements et ils avaient le body language des gens qui ont froid. Vous pouvez pas dire à vos acteurs jouez-moi le froid. Alors du coup ils vont penser qu'à ça et ils vont mal jouer la scène. Donc j'avais d'ailleurs pas voulu tourner avec John Huston qui souhaitait faire le rôle de l'aveugle parce qu'il avait exigé, et c'était bien normal, il avait de l'asthme, il voulait des décors chauffés et j'avais donc décidé de ne pas le prendre.
John Huston, grand réalisateur
formidable.
Et comédien, César est très bon comédien.
Homme magnifique, avec une carrière de film.
Mais quand même, cette obsession de la véracité qui est particulièrement présente dans Le Nom de la Rose, d'ailleurs, hein, où vous vous demandez à quoi ressemblait un tabouret, le tabouret qu'il y avait dans la cellule d'un moine au XIVe siècle en Ligurie. Il faut trouver, effectivement, c'est pas écrit dans les livres.
Je crois que ça fait la différence. Non, c'est pour ça que j'avais une équipe sous la direction de Le Goff, qui était un grand médiéviste. Et,
Jacques Le Goff.
Jacques Le Goff, oui. J'avais dans chaque département, par exemple, pour la vie monastique, pour les accessoires populaires, pour le costume populaire, des spécialistes et qui prenaient parfois 6 ou 7 mois pour me trouver la réponse. Par exemple, est-ce que les moines se rasent à l'époque ? La réponse m'est venue 6 ou 8 mois après. Dieu merci. Et on a appris qu'ils se rasaient, oui, toutes les 3 semaines. Il y avait des barbiers itinérants qui passaient
ma séance. Mais ce culte de la véracité et des accessoires, ça fait la fortune d'un endroit comme ici, puisque vous avez des milliers d'accessoires aussi, hein, Laurent.
Énormément, oui. On essaye de tout garder, avec l'aide des réalisateurs, notamment, qui nous donnent souvent beaucoup de choses.
Ouais. On se retrouve dans un instant, toujours dans les réserves de la Cinémathèque française, avec Jean-Jacques Haneau et Laurent Manoni.
Frédéric Taddeï en balade avec Jean-Jacques Haneau sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï visite le Paris de Jean-Jacques Haneau et c'est dans un lieu fermé au grand public qu'ils continuent leur balade.
Nous sommes toujours dans les réserves de la Cinémathèque française, dans un endroit bien caché, des anciens entrepôts de Bercy, avec le réalisateur Jean-Jacques Haneau et avec Laurent Manoni, qui est le directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque. Vous êtes en train de vous extasier devant une caméra.
Oui, alors ça, c'est la caméra Technicolor, l'initiale.
La première.
À l'époque, on ne faisait pas de pellicule en couleur. Donc, on prenait de la pellicule en noir et blanc par sélection chromatique. C'est-à-dire qu'il y avait un film pour le jaune, un film pour le bleu, un film pour le rouge. Je me trompe ou c'est magenta, oui. Et là, d'un seul coup, je posais la question. Je sais qu'il y avait aussi un film noir et blanc pour donner les contrastes. Parce que ces pellicules étaient sensibles donc à une zone colorée, mais elles n'étaient pas suffisantes généralement pour avoir les contrastes. Donc je sais qu'en sélection dite trichrome, il faut en fait 4 bandes. Alors là, je n'en vois que 3 quarts.
Ça, on voit bien que c'est un metteur en scène, un réalisateur de l'ancienne école. Il connaît la technique. Hein. Ceux d'aujourd'hui sont généralement des scénaristes qui font des films. Donc ne leur demandez rien sur les caméras. Ils n'ont même jamais regardé dedans.
Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai fait une transition extrêmement facile avec le numérique parce que c'est les mêmes principes. Donc une fois qu'on connaît le principe de base, tout se décline extrêmement commodément. J'étais le premier, moi, en Europe, à faire un film de cinéma en digital. J'ai fait celui de 2 frères, j'ai tourné au Cambodge avec 2 tigres. C'était le premier film digital européen.
Vous l'avez vu, Laurent Manoni ? Vous regardez des films de temps en temps ou vous regardez que les accessoires que le film était détourné ?
Non, moi je suis un grand cinéphile aussi, naturellement. Oui. On est obligé de toute façon de voir des films. Et ce qui est très important à travers Jean-Jacques Haneau, c'est de voir des cinéastes qui maîtrisent totalement la technique. Ce sont ceux-là qui sont les plus intéressants à mon point de vue.
Nous sommes un art technique. C'est comme des architectes qui ne sauraient pas construire une voûte. Alors on peut faire des très beaux dessins, mais c'est peut-être pas faisable. Tandis que quand on connaît de l'intérieur tous les méandres de la technique, et aujourd'hui je suis absolument enchanté d'aller dans les boîtes de 3D, dans tout le visuel électronique, parce que je m'y sens très à l'aise. Les trucages à l'ancienne, c'est exactement le même principe qui est appliqué aujourd'hui. Ça va beaucoup plus vite. Pour détourer, par exemple, un personnage autrefois, c'était très compliqué. Surtout quand on a des cheveux comme les miens ou comme les tiens, parce que le cheveu est très fin, donc il faut le pixeliser. Et quand on n'a pas beaucoup de définition, il y a un frangage. Donc ça faisait des auréoles impossibles. Aujourd'hui, c'est le même système. On met sur un fond vert ou sur un fond bleu ou sur un fond noir, peu importe. Et on va pouvoir découper chaque cheveu. Alors qu'autrefois, il y avait des contraintes. Donc la plupart de ces effets qu'on appelait en travelling mat autrefois.
Et ça se voyait, d'ailleurs, c'était pas très heureux.
Oui, alors on mettait des chapeaux. Parce que
et pas des chapeaux. D'où le succès du western.
Mais oui, bien sûr. Parce que ça, du coup, on peut faire des fonds bleus ou des fonds verts extrêmement commodément. Parce que le détour est très simple.
À propos de cheveux, vous racontez que Brad Pitt, avec qui vous avez fait 7 ans au Tibet, est un type adorable, formidable, très consciencieux, mais il a qu'un truc, il ne faut pas lui toucher ses cheveux. Et un jour, il a failli vous mettre son poing dans la gueule parce que vous lui avez touché les cheveux.
Parce qu'il n'avait pas entendu, nous étions deux sur le plateau à avoir le droit de lui toucher les cheveux, c'était évidemment sa coiffeuse et moi. Je disais toujours, attention, derrière, la main qui va te toucher, c'est Jean-Jacques. Et puis ce jour-là, il y avait du vent, il n'a pas entendu, il a failli me foutre un peu dans la gueule. Et la raison, c'est que beaucoup de jeunes filles se précipitaient sur lui et lui arrachaient les cheveux pour se faire cloner un bébé qui serait un enfant.
Vous croyez ou c'est juste pour avoir une mèche de cheveux de Brad Pitt?
Non,
vraiment.
Non, mais bien sûr. Les femmes de ménage.
On aurait dû leur dire que ce n'était pas possible.
Oui, mais ils le croyaient parce qu'ils avaient vu Jurassic Park et ils pensaient qu'il suffisait un bout d'ongle pour faire un bébé. Et ça a été. Il y avait toujours des gardes du corps derrière lui pour le protéger de ses assauts. J'ai été témoin de ça 1000 fois.
Ah oui, en effet. À propos de costumes, vous expliquez dans vos mémoires qu'en fait, les costumes exceptionnels, ça va au musée. Donc, il y en a beaucoup qui viennent à la Cinémathèque française, d'ailleurs. Mais que souvent, on les revend aux enchères. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas racheté par n'importe quelle société, notamment par la télévision. Parce que sinon, après, la télévision, elle se resserre des costumes indéfiniment. Et ça banalise les films, ensuite, quand on les revoit. Si tous les costumes magnifiques du Nom de la Rose étaient passés dans 18 000 séries télé, on ne regarderait plus le Nom de la Rose de la même manière aujourd'hui.
C'est pour ça que, pareillement, je fais détruire les décors une fois que j'ai tourné dedans. Deux raisons. Les décors ne sont pas faits pour durer, donc ils sont fragiles. Et s'il y a des pièces qui se décrochent, elles peuvent tuer les visiteurs. Et deuxièmement, effectivement, ça banalise complètement le film. Si vous commencez à laisser un décor en place, vous allez avoir des films très peu chers, en particulier des films porno, qui vont... Ben oui, bien sûr.
Vous croyez qu'il y aura des films porno dans les décors de Game of Thrones bientôt?
Mais bien entendu.
Il y avait déjà des acteurs porno dans Game of Thrones.
Mais bien entendu. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leurs décors, mais si vous voulez, ça c'est un vrai souci.
On les visite, les décors.
Alors oui, et dans ce cas-là, il faut les interdire de tournage. Mais généralement, ils sont vendus à des gens qui n'ont pas cette délicatesse. Et du coup, effectivement, ça fait vieillir les films de manière terrible.
Eh bien, je vous propose d'écouter Devil in Your Soul, la chanson de Wade Flamans. Le diable dans votre âme, ça doit vous parler, Jean-Jacques Hano.
Pas du tout.
The man does not exist. The man that could resist that devil in your soul. Not one man here alone can say that you're his own, for that devil in your soul. You've made men fight and die, and you've made men even cry. So beautiful you are, 'tis true. Hell for that devil in your soul.
C'était Devil in Your Soul, interprété par Wade Flamens en 1961. On va continuer notre balade avec Jean-Jacques Haneau. Merci Laurent Manoni de nous avoir accueillis dans cet endroit secret, les réserves de la Cinémathèque française.
Un grand honneur.
Comme chaque dimanche de 11h à 12h30, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï dans les rues de Paris. Et alors aujourd'hui, il est accompagné par Jean-Jacques Haneau.
Nous sommes en voiture, sous la pluie, avec Jean-Jacques Haneau. Le point commun à tous vos films, Jean-Jacques Haneau, pour moi, c'est l'anticolonialisme. On le voit dès La Victoire en chantant, votre premier film, mais aussi dans Cet homme Tibet, qui se passe donc au Tibet, menacé par les Chinois. Dans Stalingrad, après tout, Hitler a voulu coloniser toute l'Europe. Dans L'Amant, bien entendu, qui se passe en Indochine française. Mais aussi dans Le Nom de la Rose et Sa Majesté Mineure, qui parle de la colonisation des consciences par le monothéisme qui commence dans un cas ou qui va bientôt commencer. Et puis la colonisation des consciences par le football dans Le Coup de tête. Et pour finir, dans tous vos films dont les héros sont des animaux, c'est la colonisation du territoire des animaux par les humains. Puisqu'à chaque fois, l'ennemi des animaux, ce sont les humains qui les menacent.
Ben, je crois qu'on le voit très clairement aujourd'hui, mais c'est vrai que cette fascination m'a été provoquée lorsque j'ai été envoyé, un peu contre ma volonté, en Afrique pour faire de la coopération. Je croyais d'ailleurs détester cette aventure, et dès que la porte de l'avion s'est ouverte, je suis tombé en amour.
Vous étiez un étudiant en grec qui devait écouter de la musique classique.
Absolument, je suis arrivé là-bas d'ailleurs avec une collection de vinyles et mon petit appareil de portable, et j'avais emporté en particulier le Stabat Mater de Percolèse, première chose que j'ai installée sur la colline qui surplombait Yaoundé, et ce jour-là, il y avait une fête villageoise et le tam-tam est monté jusqu'à moi. Je veux dire que je dis ça comme ça parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais appris beaucoup de choses sur la mélodie, mais rien sur le rythme. Donc rien sur les fondamentaux, sur le rythme cardiaque, sur le rythme du pas. Et ça m'a complètement bouleversé. J'ai été transformé par l'Afrique. Très, très choqué, je dois dire, par non seulement le comportement, mais l'idée de la supériorité de ceux qui étaient les colonisateurs, l'idée qu'ils étaient des êtres différents. Alors ça, j'ai pas du tout supporté cette affaire. C'est ça qui m'a révolté, véritablement, et qui continue à me révolter.
Mais quand même, quand on regarde, c'est tous vos films, quoi. Tous vos films, c'est sur l'anticolonialisme.
Alors, il y a d'autres thèmes aussi, mais il y a le thème de l'apprentissage aussi.
Oui, vous le dites, mais c'est moins prégnant que l'anticolonialisme.
Frédéric, vous êtes le premier à me dire ça. Ouais, et j'en suis très heureux. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversé et qui a complètement transformé mon approche. Et c'est même pour ça que j'ai voulu faire des films en prenant le point de vue de l'animal.
En disant, y compris le point de vue de l'homme encore animal du temps de Sa Majesté Mineure.
Oui. En disant,
pas encore colonisé par le christianisme.
Oui, et pas encore colonisé par l'idée qu'il y a des êtres supérieurs. Moi, j'ai passé le week-end là avec le petit chien de ma fille. Je dois dire que c'est un personnage, c'est d'une personnalité sur laquelle j'aurais envie de faire un film tellement ses émotions sont lisibles, transparentes.
Vous êtes anticolonialiste, vous êtes antiraciste, est-ce que vous êtes antispéciste aussi? Vous pensez qu'il faut cesser de se considérer comme les maîtres et possesseurs des animaux?
Mais bien entendu, ça c'est une idée de la Bible. Vous savez, les autres religions ont des dieux animaux. Tout simplement parce que beaucoup de religions, surtout les religions asiatiques, considèrent qu'il n'y a pas une frontière aussi déterminée entre le monde des humains et le monde des animaux. Nous sommes après tout tous des mammifères. Et pas seulement, les serpents ont aussi une personnalité.
Donc vous êtes en plus anti-monothéiste, donc païen, animiste.
Oui, j'aime les religions parce que j'aime le sens moral qu'elles impliquent. J'aime qu'il y ait je pense que les cadres qu'impose la religion sont très souhaitables. C'est pas pour ça qu'il est nécessaire de croire. J'aime par exemple énormément les lieux de prière, que ce soit des églises, des mosquées ou des synagogues, parce que je respecte la prière des autres. C'est pas pour ça que moi je vais le faire.
Je regarde. Mais vous leur préférez quand même les religions avec plusieurs dieux et si possible des dieux animaux.
Oui, mais parce que, vous savez, dans les religions chrétiennes, pourquoi il y a des saints? parce que les saints, ils ont des spécialités pour les voyageurs, pour la santé, etc., qu'avaient autrefois les dieux spécifiques. Parce que dans la pensée populaire, le dieu ne peut pas s'occuper de tout, donc il faut quand même des ministres. Donc c'est pour conquérir, pour christianiser, qu'il a été nécessaire d'inventer les saints et aussi la Vierge d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire.
Jean-Jacques Cano, on est dans une ville, là il pleut mais on la voit bien, cette ville c'est Paris. Vous êtes, j'ai l'impression, un cinéaste dans l'œuvre duquel la ville est quasiment absente. Vous lui préférez la nature, les grands espaces, ne filmez jamais de murs au fond. Les murs vous sont totalement étrangers.
Oui, je trouve que la ville emprisonne d'une certaine manière. C'est un peu un univers carcéral quand on est pris dans les embouteillages de Paris. Moi, je préfère être dans un sentier de forêt ou traverser un champ de coquelicots.
Donc, c'est pas seulement en tant que cinéaste, dans la vie même, vous êtes plus proche de la nature.
Je m'y sens bien, c'est-à-dire que je place les film là où j'ai envie d'être. Quand je fais un film comme le Dernier Loup en Mongolie, chaque jour, quand je suis au sommet des collines et que je vois l'immensité verte devant moi, qui est un désert de gazon, avec peut-être une yourte à 6 km de là, je sais que je respire le bon air, je sais que j'appartiens à ce monde-là. La ville, je ne suis pas sûr d'avoir été conçu pour la ville. Quand je regarde comment sont faites mes mains, elles sont faites pour courir dans la forêt, m'agripper aux branches.
Ah oui, vous voyez comme ça?
Ah oui, bien sûr. Mais attendez, pourquoi...
C'est pour ça que vous avez fait la guerre du feu, au fond.
Oui, mais pourquoi nos yeux voient entre le rouge et le vert? C'est tout simplement pour savoir si les fruits sont mûrs ou pas. Donc, les abeilles...
Et pourquoi avons-nous un nez, après tout, si ce n'est pas pour renifler les aliments avant de les manger?
Absolument, parce que ça, c'est le premier des sens. Les cellules ont cette nécessité de savoir ce qui est bon ou mauvais. C'est-à-dire que ce qui est bon pour la vie ou ce qui va les faire mourir. Donc,
Est-ce que la vie est si bien faite que ce qui est bon pour la vie sent bon et que ce qui risque de nous faire mourir sent mauvais?
Et bien entendu, il n'y a pas de bon et mauvais en soi, parce que il y a, je crois, des scarabées qui adorent le goudron, par exemple. Bon, ça, c'est leur problème. Il y a certainement des bactéries qui adorent le pétrole.
Les crapauds adorent fumer, alors que ça les fait mourir.
Oui, bien sûr. Mais les humains aussi, non?
Nous voilà arrivés avec Jean-Jacques Cano. On se retrouve dans un instant sur un bateau-bus.
Frédéric Taddeï en balade avec Jean-Jacques Cano sur Europe 1. Europe 1 en balade avec Jean-Jacques Cano. Frédéric Taddeï.
Nous sommes en balade aujourd'hui avec le cinéaste Jean-Jacques Cano. Nous sommes sur un bateau-bus, un service de bateau sur la Seine qui transporte chaque année, depuis 30 ans, de 10h à 17h, des centaines de milliers de passagers. Il y a 9 stations, 6 sur la rive gauche et 3 sur la rive droite. C'est votre première fois, Jean-Jacques Cano?
C'est ma première fois et je vois passer ce bateau-bus de ma fenêtre, parce que j'habite près du Pont-Neuf. Je m'étonne qu'il n'y ait pas un service plus intense sur la Seine, qui est un merveilleux axe de communication. Et là, c'est un bateau qui passe seulement toutes les 20 minutes et qui s'arrête à la Tour Eiffel.
C'est plus un bateau promenade qu'un bateau bus, hein, en fait.
Oui.
Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes plutôt un cinéaste de la nature que de la ville. Donc là, c'est bien, vous retrouvez les grands espaces sur la Seine.
Oui, en tout cas,
c'est... Non, c'est pas encore assez grand pour vous.
Non, j'aime les éléments. Donc j'aime l'eau, j'aime le vent, j'aime la tempête, j'aime la pluie. Donc effectivement, les rivières me plaisent, ainsi, et la mer aussi.
Vous préférez également le passé à notre époque. Hein. Est-ce que c'est parce que vous l'imaginez plus esthétique?
Non, c'est parce que je peux le reconstituer. Parce que je peux le fabriquer. Je ne vais pas fabriquer le monde contemporain. J'y vis, avec plaisir d'ailleurs. Mais ça me fait moins rêver que les endroits où je ne peux pas aller. Et je ne peux pas aller dans le passé, sauf dans mes films, sauf dans les décors que je fais construire, sauf en compagnie des personnages qui interprètent des gens d'autres époques.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi une question esthétique? Parce que vous êtes un esthète du cinéma. Vos films sont souvent très très beaux. peut-être la seule exception, c'est justement le film que vous avez tourné en France à notre époque, c'est Coup de tête, qui n'est pas un très beau film. Je parle sur le plan esthétique, c'est un film très réussi. Mais ça n'est pas joli comme peuvent l'être Le Don de la Rose, L'Ours, Deux Frères ou même Stalingrad, qui est d'une grande beauté.
J'aime, moi, fabriquer, j'aime inventer. Et quand je reconstitue une époque, c'est en fait ma vision de cette époque. Elle est évidemment le plus documentée possible, mais c'est toujours de la fiction en vérité. Et puis l'esthétique va dépendre du sujet. Sur un film comme tout Coup de tête, il était contradictoire. Il aurait été complètement contradictoire qu'il soit esthétique. En revanche, un film comme L'Amant, j'ai pensé qu'il y avait l'esthétique de l'Asie, qui était fondamentale pour faire comprendre l'histoire amoureuse. Une histoire de chaleur, une histoire de transpiration, une histoire d'humidité. Et donc, il fallait photographier ça et rendre le paysage, lui donner une partie du sentiment.
Mais comment expliquez-vous que les films français sont quand même moins beaux que les films américains, par exemple? Je parle là de questions de lumière, de photos, de grains même quasiment de la pellicule, enfin même si aujourd'hui il n'y a plus de pellicule, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, les films français
mais
étaient très
magnifiques.
Beaux.
Les films étaient, mais si vous regardez les films d'avant-guerre, c'est des
c'est splendeurs. C'est bien plus beau absolument que les films américains, que les films hollywoodiens, nos films d'avant-guerre.
Un film qui s'appelle Remorque de Grémillon, là on est sur un bateau, c'est un film magnifiquement photographié. Le problème, c'est un problème de budget et de temps de préparation. Quand vous réduisez le temps de préparation et le temps de tournage, vous ne pouvez pas choisir des décors en fonction de l'axe de lumière au moment où il sera favorable. Ce que je fais sur tous mes films, c'est que je choisis les décors avec mon chef opérateur, ou en tout cas, je vais avec mon chef opérateur dans chaque décor. On regarde la position du soleil le jour où on va tourner et on marque l'heure où les ombres sont les plus favorables à l'aspect plastique de l'image. Et ça demande un temps de préparation que la plupart des films français ne peuvent pas s'offrir.
Alors on m'avait expliqué que c'était aussi parce que les avances sont données aux producteurs le premier jour de tournage, que donc les producteurs économisent sur tout ce qui se passe avant le premier jour de tournage, donc sur le scénario, donc sur les repérages, donc sur les répétitions, et que c'est pour ça que les films français, parfois, m'avait-on dit, ressemblent à des brouillons.
Je dois dire que même dans l'économie américaine, j'ai quand même du mal à persuader mes producteurs de rémunérer des collaborateurs parfois un ou deux ans avant pour faire les recherches nécessaires, pour trouver les décors nécessaires. Donc tout ça a un coût. J'ai envie de dire la beauté a un coût. Mais c'est comme un très joli costume. Ça ne se fait pas dans la seconde. Ça se fait,
ou les bords de Seine, hein, parce que ce qu'on a sous les yeux, là, c'est quand même magnifique. Hein.
Oui, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette promenade. Parce que c'est vrai que c'est quand même tout à fait exceptionnel. On vit dans
la plus belle ligne de bus de Paris.
Oui, et c'est franchement, moi qui voyage tellement, à chaque fois que je reviens à Paris, je trouve que c'est, comme le disaient les chansons, la plus belle ville du monde.
Arrêt, Hôtel de Ville.
Eh bien, Hôtel de Ville, donc on descend déjà. Bon, évidemment, le problème, c'est que le ticket est à 17 euros et que pour une station, c'est quand même rapide.
C'est un tout petit peu cher pour 10 minutes de bateau. Ouais.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Jacques Hano.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Jacques Hano sur Europe 1.
C'est le long de la Seine, dans le 4e arrondissement de Paris, que la balade de Frédéric Taddeï et Jean-Jacques Hano continue.
Nous voilà sur le quai de l'Hôtel de Ville avec Jean-Jacques Hano. Autrefois, enfin naguère encore, des voitures passaient. Là, c'était la voie Georges Pompidou. Maintenant, il y a des enfants qui jouent. Ça vous plaît ?
Il y a quelques trottinettes, oui. ce qui est étrange, c'est de voir les embouteillages au-dessus et là, une double voie complètement libre.
C'est un peu le but, je crois, non ?
Oui, c'est le but.
Oui. Mais enfin, pour dégoûter les Parisiens de la voiture.
Oui, mais c'est pas une voie très accueillante parce que je vois que les cyclistes et les trottinettes préfèrent aussi passer en haut parce que c'est plus joli. Là, c'est vrai que c'est un ruban de goudron pas très esthétique.
Bah, un jour, il va falloir l'aménager.
En revanche, la vue, là, est quand même extraordinaire.
Notamment sur Notre-Dame, un gros trou au milieu. Hein.
Oui, je sais qu'il y a une compétition pour reconstitution de la flèche. Alors, il y a à l'Académie des Beaux-Arts à laquelle j'appartiens, il y a des opinions très variées, hein, très
faut-il la refaire à l'identique,
Ou la refaire à l'identique, mais revisiter avec les matériaux modernes. Voilà. Moi, je pense que une flèche en matériaux plus contemporain serait sûrement d'abord plus légère pour le bâtiment qui a été très abîmé et tout aussi esthétique et spectaculaire.
Jean-Jacques Hano, quand vous faites un film, ça vous prend plusieurs années. Vous nous avez expliqué pourquoi. Hein. Vous passez votre temps à voyager, à faire des repérages, à trouver des endroits, à trouver de l'argent. Le peu de temps qui vous reste, vous l'employez comment ?
Bah, à préparer d'autres films.
C'est ça, tout le temps,
évidemment. Oui, bien sûr. Vous savez, on ne quitte pas le cinéma. C'est un métier tellement prenant, tellement exceptionnel que, comme le disait François Truffaut, on ne quitte pas le cinéma, c'est le cinéma qui vous quitte éventuellement.
Vous avez eu l'impression que le cinéma vous avait quitté quand vous avez fait cette série, l'affaire Harry Kéber ?
Ah, pas du tout, puisque moi, c'est moi qui ai eu le désir d'en faire une série télé.
Mais peut-être vous êtes-vous dit à ce moment-là que c'était un autre métier ?
Non, c'est pas du tout un autre métier, non. Non, ce qui est différent, c'est que les spectateurs peuvent se lever à tout moment et appuyer sur la guillotine et changer de chaîne. Ça, c'est la grande différence avec le cinéma.
Vous avez remarqué qu'au cinéma, non seulement les gens mangent de plus en plus, les Français n'étaient pas habitués.
Ils se téléphonent les uns aux autres.
Ils se téléphonent et ils parlent de plus en plus fort
bien
dans les salles de cinéma. Les gens sont habitués maintenant, ils ont l'impression d'être devant leur télé. Quoi.
Voilà, ils commentent le film généralement en disant « Et le tien, il est comment dans la salle à côté ?» C'est-à-dire que ça pollue énormément le spectacle. Moi, j'ai été évidemment élevé à la Cinémathèque, où j'allais tous les soirs pour les trois séances. Il n'y avait pas un bruit à la Cinémathèque. On voyait ça dans un silence complètement religieux. C'est comme ça
et
qu'on
pourtant,
peut apprécier
le film était souvent en anglais, sous-titré en danois. C'était la spécialité de la Cinémathèque.
Oui, mais justement, toute notre attention était requise. Mais là, effectivement, bon, c'est le cinéma est redevenu un peu un spectacle de foire, comme aux origines. Bah, c'est, les gens font comme au théâtre cantonais ou au théâtre pékinois. C'est-à-dire qu'on rentre, on sort, on bouffe dans la salle. J'ai un ami cinéaste chinois qui m'avait dit, disons, fais attention, si tu refais un film en Chine, si tu as une scène d'action très prenante sur 5 minutes, donne 5 ou 10 minutes après de non-sens. Parce que comme ça, les gens peuvent téléphoner et se donner rendez-vous pour savoir où on va dîner. Et je m'aperçois que la plupart des films chinois sont faits de cette façon.
On est sur la voie Pompidou, enfin ce qui était autrefois la voie Pompidou. On passe juste sous le pont d'Arcole, on se dirige vers la Sainte-Chapelle. On va écouter la Seine, puisqu'elle coule le long de ce quai. On va écouter la Seine chantée par Isabelle Aubray.
Châtillon à Méry et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'amoureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Dès qu'elle entre dans Paris, elle s'enroule, roule, roule autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris, elle ouvre ses bras dociles au sourire du roi Henri, indifférente aux édiles de la mairie de Paris. Elle court vers les idylles des amants des Tuileries. Elle est saoule, saoule, saoule au souvenir de Bercy. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Si ça marche zigzagante,
c'est qu'elle est grise à Paris. Mais la Seine est paresseuse en passant près de Neuilly. Oh, comme elle est malheureuse de quitter son bel ami dans une étreinte amoureuse. Elle en a encore Paris pour lui laisser généreuse une boucle à Saint-Denis. Sa complainte dans la nuit, elle roule, roule, roule vers la mer où tout finit. Elle chante, 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 chante l'amour de Paris, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris, car la Seine Paris dort dans son lit.
C'était La Seine, un classique de la chanson française, interprété par Isabelle Aubray.
Là, je suis frappé en regardant au-delà de la balustrade. Aujourd'hui, il y a une parfaite bichromie. Il y a du beige et du gris. Le ciel est gris avec des taches beiges. Et la conciergerie, à part le clocheton qui est
doré,
les toits sont en ardoise ou en zinc.
C'est les toits gris de Paris. Hein.
Et oui, les murs blonds de ce calcaire de l'abri, c'est assez rare. C'est une sobriété, une élégance tout à fait particulière.
Comme quoi, les villes, ça mérite aussi d'être filmé.
Ah oui, 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 bien sûr, mais...
Par d'autres.
Encore une fois, oui, voilà. Mais je crois, si vous voulez, que quand on est cinéaste, il faut vraiment faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous plaît.
Est-ce qu'on fait mieux que les autres aussi,
non ? Non, mais il suffit déjà d'être amoureux de quelque chose pour bien en parler ou bien le filmer. Moi, c'est vrai que je suis tout à fait amoureux de Paris, mais comme c'est l'endroit où je suis supposé vivre, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, puisque depuis 40 ans, je vis essentiellement à l'étranger, mais enfin... J'aime effectivement me promener ce long de la Seine. Je trouve que c'est un spectacle inouï et je suis fier d'être français pour toutes ces raisons.
Jean-Jacques Hanau, vous avez passé votre jeunesse à la Cinémathèque, vous le disiez. Qui sont vos modèles en tant que réalisateur? Quand j'ai lu vos mémoires, au fond, vous n'en citez pas tellement.
Ben, j'ai eu des modèles...
Jean Renoir.
Jean Renoir en France, oui, bien sûr, parce que...
Qui vous a écrit une belle lettre, d'ailleurs.
Ah oui, magnifique. Je ne croyais pas que quelqu'un comme lui pouvait écrire à un débutant la lettre que j'ai reçue. J'ai pensé que c'était un faux.
Kurosawa, lui, ne vous a pas écrit.
Non,
c'est
non,
non.
Mais
réalisateur des Sept Samouraïs, de
Rashomon. Non, mais j'ai eu le plaisir de connaître un critique de cinéma qui était très, très proche de lui. Et j'ai eu le bonheur d'entendre de sa bouche des choses rares concernant mes films.
On va quitter les quais, on remonte les escaliers. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Jacques Hanau à la Sainte-Chapelle.
Jean-Jacques Hanau a décidé de finir sa balade avec Frédéric Taddeï dans un joyau parisien du premier arrondissement.
Nous sommes dans la Sainte-Chapelle, sur l'île de la Cité. La Sainte-Chapelle qui date du XIIIe siècle avec ses immenses vitraux d'origine. C'est l'un des vestiges avec la conciergerie du Palais de la Cité où vivaient les rois de France jusqu'à ce qu'ils s'installent au Palais du Louvre. Jean-Jacques Hanau, qu'est-ce qu'un païen animiste tel que vous vient chercher dans un endroit comme celui-ci? Parce que c'est votre idée, c'est vous qui vouliez venir ici.
Oui, d'abord parce que en ce moment, on parle beaucoup évidemment de Notre-Dame et on parle beaucoup moins des autres monuments remarquables de la France médiévale parisienne. Et la Sainte-Chapelle est un endroit extraordinaire parce qu'on est dans une cage de verre multicolore, complètement folle,
est magnifique, hein, il faut bien dire. C'est rétamant de beauté.
Oui, c'est franchement beaucoup plus beau que Notre-Dame.
Mais moins grand.
C'est une chapelle. Hein, c'est pas une église, c'est pas une cathédrale. Mais architecturalement, c'est émerveillant, comme dirait Marguerite Duras, parce que ces baies mesurent 15 mètres de haut. Elles sont toutes faites avec des verres en couleur primaire montés au plomb. Je souhaitais que Drouillet me rejoigne là pour parler justement de ces couleurs éclatantes.
Philippe Drouillet, hein, l'auteur de bande dessinée, qui est un de vos amis, qui nous a lâchés malheureusement.
il s'est cassé le bras ou quelque chose. Ce qui m'étonne aussi, c'est que comme j'ai passé beaucoup de temps en Chine, je retrouve ici les mêmes couleurs que les temples tibétains ou les temples chinois. C'est les couleurs vives, éclatantes, qui élèvent l'âme.
Il y a des saints représentés en statues. Ça me fait penser, vous avez toujours fait un cinéma de héros, vous avez toujours des acteurs très beaux, Sean Connery, Brad Pitt, Jude Law, Tony Leung dans L'Amant, souvent positifs, sont des hommes beaux, bons.
Et des femmes belles aussi, on me l'a souvent reproché.
Mais c'est vraiment un cinéma de héros, c'est-à-dire des exemples à suivre, un peu comme vous l'expliquez d'ailleurs dans Stalingrad, où on choisit un héros. Les combattants de Stalingrad ont besoin d'un héros parce qu'il va leur rendre l'espoir, parce qu'il va leur indiquer la marche à suivre.
Mais si vous regardez l'art traditionnel, l'art médiéval en particulier, c'est un art de beauté. Les statues que nous voyons, les fresques, ces vitraux sont beaux, et la beauté fait vendre une idée. Et on s'identifie mieux à la beauté parce que c'est l'exemple que l'on souhaite atteindre. Alors c'est tout ce qu'explique Aristote. Une fois qu'on a lu la poétique d'Aristote, on comprend ce que c'est que l'art. L'art,
et le cinéma, pas par la même occasion.
Oui, bien entendu.
Et l'art, c'est bigger than life.
Mais bien entendu. Bien entendu. Si vous racontez des histoires rikiki, les gens ne veulent pas s'identifier à un personnage médiocre. Il veut au contraire rêver de s'identifier à quelque chose de plus beau que la vie.
Vous parliez de Marguerite Duras, que vous avez bien connue. Vous le racontez en détail dans votre autobiographie au moment de vous allez réaliser L'Amant. Et vous la montrez avec beaucoup de tendresse, mais enfin, vous la montrez quand même totalement folle. C'est-à-dire paranoïaque, mégalomane, narcissique.
Oui, mais c'est ce qui a fait son talent. Je crois qu'on ne peut pas être tout à fait une personne normale. C'est ce qui lui a fait écrire des lignes éblouissantes. Parce qu'elle avait cette douleur en elle, elle avait cette vengeance. Elle voulait régler son compte à la société et à elle-même.
C'est une menteuse aussi.
Oui, mais ça, c'est le principe même des artistes. On se rêve différent de ce qu'on a vécu. Donc toutes les œuvres sont d'une certaine manière autobiographiques. Mais on ment sur la véritable personne que l'on est.
Vous avez beaucoup menti aux journalistes ?
Non, franchement non. Non, en revanche, je me masque en faisant les films que je fais. Je masque ce que je suis. Je ne dis pas clairement que je parle de moi.
Ça, vous n'avez pas l'air de vous vendre non plus à travers ces films-là. Ils semblent loin de vous.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire, de façon à justement me cacher. Donc c'est là où je mens. Parce que quand je fais un film comme L'Ours, en fait, moi, je suis l'ourson. Parce que j'ai besoin d'apprendre des adultes et j'ai besoin d'apprendre des autres espèces, c'est-à-dire de l'espèce humaine. Donc je me sens l'étudiant studieux qui a besoin de s'améliorer au contact de la différence.
Et dans Coup de tête, vous êtes qui, alors ?
Dans Coup de tête, je suis forcément le personnage principal, parce que...
C'est une victime.
Oui, parce que je vous rappelle que le thème de Coup de tête, c'est pas le football, c'est la notoriété soudaine survenue par un coup du hasard. Car il s'agit pas d'un joueur d'exception qui marque un but formidable, non, c'est le ballon qui tape sur son pied et qui passe entre les poteaux à la surprise de tous. Et ce type qui était méprisé de tous devient un héros. Ça me plaît, parce que ça m'est arrivé aussi. Quand j'ai fait mon premier film, je me suis payé un bide colossal. Tout le monde m'a dit, y compris mon très cher ami Claude Berry, que j'étais nul. Quelques temps après, j'ai l'Oscar, et d'un seul coup, c'est le même film, hein, et le même personnage me dit que je suis un génie. Donc, si vous voulez, ça me fait rire. Et c'est peut-être pour ça, si vous voulez, que je garde une certaine distance par rapport aux aléas de la vie.
Merci Jean-Jacques Hanneau de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Je remercie le Musée des Arts Forains et son fondateur, Jean-Claude Favan, de nous avoir si gentiment accueillis, les réserves de la Cinémathèque française et Laurent Manoni, le directeur du patrimoine, qui nous en a ouvert les portes. Je remercie bien entendu les bateaux-bus et puis la Sainte-Chapelle. Et j'entends une dame remercier Jean-Jacques Hanneau pour tous les films qu'il a fait. Moi aussi, je vous remercie pour tous vos films, Jean-Jacques Hanneau, ainsi que pour votre autobiographie Une vie pour le cinéma qui est parue chez Grasset. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine à 11h.
Alors à la semaine prochaine, Frédéric. Et pour patienter, on peut bien sûr retrouver toutes les balades en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, comme chaque dimanche, ce sera votre journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle. Et à 15h, vous pourrez écouter Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et la chef cuisinière Hélène Darroze. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est midi 26.